Café Cosé.
Café Cosé.
Une radio participative à la Belle de Mai, 36 rue Bernard.
Ok.
C'était Radio Café Cosé. Bonjour Sarah.
Bonjour Solange.
Bonjour Mommy.
Bonjour Solange.
Entrez, nous sommes chez Mommy. Entrez, asseyez-vous, prenez place. Mommy va nous faire du café comme d'habitude. Mommy, ma Mommy, comment tu vas Mommy? Alors les filles, asseyez-vous. Vous avez vu la canarie qui est là-bas? C'est là où l'histoire a commencé. Bonjour Sarah, je suis très fière d'être avec Mommy aujourd'hui pour la suite de l'histoire de la figue de Bavaré.
Bonjour les filles, je suis contente de vous voir et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Je suis impatiente parce qu'on va aller vers une histoire difficile, Solange, difficile. Nous en étions restés au fait que Christophe Colomb était retourné en Espagne et que les marins, dans leur paquet, ils avaient les raquettes du cactus de la figue de Barbarie, on est d'accord? Donc, ils arrivent en Espagne jusqu'à Séville, qui va être le port où arrivera tout ce qu'ils ont découvert en Amérique. Alors, tu auras les plantes, tu auras les animaux, ils amèneront même des Indiens. Et puis, surtout, tu sais ce qu'ils veulent?
Non,
de l'or.
Wow.
Bon, donc, les marins sont de retour et on sait que Christophe Colomb a découvert ce qu'il appelle les Indes, et ça veut dire, à l'époque, ça veut dire la Chine. Mais les gens, ils ne sont pas sûrs de ça. On ne sait pas ce qu'il a découvert. Alors, peu à peu, il y a d'autres bateaux qui vont partir. On va financer d'autres expéditions. Donc, les bateaux, ils partent, ils savent que Colomb a découvert peut-être la Chine, ou peut-être, on ne sait pas quoi. Plusieurs bateaux partent. Il y a l'idée qu'on va faire de l'argent, hein, qu'on va aller découvrir ces terres. Ils disent, est-ce que les terres produisent? Est-ce qu'il y a de l'or et de l'argent? Est-ce qu'il y a des mines? Est-ce qu'il y a des terres à cultiver? Est-ce qu'il y a des Indiens qu'on pourrait utiliser comme paysans gratuits? Etc.
Les Indiens qu'on peut utiliser comme des paysans gratuits, ça veut dire comme des esclaves? Moi, je ne comprends pas bien.
C'est bien ça, tu as tout compris en fait, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va faire une grande polémique, parce qu'il y a un curé catholique qui va dire « Les Indiens, c'est des êtres humains, c'est des hommes, comme vous. On ne peut pas mettre en esclavage des hommes. » Mais non, t'excuses pas, parce qu'il va dire aussi « Mais les Africains, ce n'est pas des hommes. » Et ça va être le début de l'esclavage. Donc là, alors on ne rentre pas là-dedans, c'est encore une histoire horrible. On va continuer notre trajet pour l'instant, Solange. Il y en a un, il s'appelle Amérique Vespucci. C'est un commerçant d'Italie, un Florentin. Et celui-là, il veut faire commerce. Donc, il monte sur une expédition. Il va faire deux expéditions. Mais assez tôt, en 1501, c'est-à-dire une dizaine d'années après, il y a donc ce commerçant de Florence. Il dit, Christophe Colomb s'est trompé. Ça n'est pas la Chine qu'il a découvert. C'est un nouveau monde qu'on ne connaissait pas. Et ça intéresse beaucoup les gens.
Un nouveau monde qu'on ne connaissait pas.
Oui.
Décortique un peu ce nouveau monde qu'on ne connaissait pas parce que...
Alors, imagine les cartes. Tu as un trait bleu, une masse bleue, c'est l'océan. Puis, il n'y a rien de l'autre côté. Il va falloir faire la carte de l'Amérique. Quelle forme il a, ce nouveau monde? Comment est-ce qu'on l'appelle? Alors, si on ne dit pas les Indes, les cartographes, ils disent, c'est un nouveau monde... Celui que nous décrit Amérique Vespucci. Et donc, ça devient l'Amérique. Je suis partie beaucoup trop loin. Solange, où est la figue de Barbarie?
Non, ça vient, ça arrive.
Ça vient.
Oui, donc, mais il faut tout ça pour arriver sur la figue de Barbarie parce que...
Voilà. Alors, on arrive avec les marins, ils vont, ils viennent et tout. Ils remontent le Guadalquivir, ils arrivent à Séville, tout le monde les attend. Qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux? Alors, du premier voyage, ils ont amené quelques plantes, des perroquets. les perroquets, ça fait beau. Vous n'avez jamais vu des oiseaux si beaux.
Dans le bateau ?
Oui, en revenant, Colomb, il a ramené ce qui pouvait prouver qu'il avait été en Chine, en Inde. Et les marins, eux, ils ont les raquettes du figuier de Barbarie dans leur poche parce qu'ils se sont aperçus que la figue de Barbarie les guérissait du scorbut. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont les faire planter.
Excuse-moi, mamie, c'est pour ça qu'ils ont caché la figue de Barbarie. Ils ont caché parce que quand tu dis ils ont mis dans la peau, ça veut dire ils ont caché parce que c'était très important la figue de Barbarie.
Eh bien non, la figue de Barbarie, t'as raison, elle était importante pour personne. Ça va être la plante la plus humble, la plus pauvre, la plus oubliée. Quand on dit qu'est-ce qu'on a trouvé en Amérique, on parle de la tomate, de plein de choses, jamais de la figue de Barbarie. Non, ils l'ont mis dans leur sac pour qu'au retour, ils sortent une ou deux raquettes et ils les plantent. Personne ne va en parler parce que c'est tout simplement pas intéressant. Mais peu à peu, il y a les paysans qui regardent qu'est-ce que c'est cette nouvelle plante. Et les paysans, ils n'ont pas de contact avec les marins, tu sais. Tout d'un coup, ils plantent, ils disent ça marche. Et puis, ils voient ce fruit et ils vont lui donner un nom. Ils ne peuvent pas demander aux marins, les marins, ils vont, ils viennent. Et les paysans à l'intérieur des terres, ils ne peuvent pas leur demander comment ça s'appelle. Parce qu'eux, ils t'auraient dit, ça s'appelle Tuna. Tu te souviens, on avait dit c'était Tuna.
Je me souviens la première.
Ils ne savent pas. Et alors, ils vont dire, c'est le fruit des Indes. Et ils vont l'appeler Hindi, ou Carmus el Hindia, le fruit des Indes.
Dans quelle langue, mami ?
Ben oui, tu as l'air surprise. Hein?
Oui, mami.
Bon,
oui.
Parce qu'on est en Espagne.
Oui.
Et alors, les paysans, ils parlent quelle langue ? Ils l'appellent El Hindi, Carmus el Hindia, ils parlent arabe. Alors, il faut remonter encore l'histoire, Solange. On est obligé de remonter l'histoire. On va essayer de faire vite.
Oui, non, mamie, là, je comprends déjà. C'est mieux de continuer, savoir comment la figue de Barbarie est arrivée.
Oui, et on a besoin de savoir comment elle s'appelle, puisque oui. C'est par là qu'on fait l'histoire.
Mamie, ça veut dire, quand la figue de Barbarie était dans la poche, on n'avait pas encore donné le nom figue de Barbarie. Aujourd'hui, on veut savoir comment le nom de la figue de Barbarie est arrivé. D'accord, mon ami.
Oui, et c'est exactement ça. Donc, pour l'instant, le seul nom qu'on a, c'est Tuna.
C'est Tuna.
Et maintenant, je te donne un nouveau nom, le nom que lui donnent les paysans d'Espagne qui vont la faire pousser. Mmh. Et tu t'aperçois tout d'un coup qu'il parle arabe. Alors, pourquoi est-ce qu'en Espagne, on parle arabe ? Alors, on remonte le temps, on remonte beaucoup, beaucoup, jusque vers 700 après Jésus-Christ. D'accord ? Voilà les Berbères, tu te souviens des Berbères,
oui, moi,
les habitants d'Afrique du Nord qui sont originaires d'Afrique du Nord.
Oui.
Eux, ils ont eu une invasion aussi parce qu'ils ont les Arabes qui sont arrivés peu à peu tout le long de la côte d'Afrique du Nord. Les musulmans, ils ont reçu la parole du prophète, d'accord ? C'était en 622. Il a commencé un long exil lui aussi. Et cet exil, c'est le début de l'islamisation de tous les pays où ils vont passer pour apporter la bonne nouvelle, celle de la religion musulmane. Donc, ils vont remonter le long des côtes d'Afrique du Nord et vers 700, ils sont arrivés vers Alger. Donc, les Berbères d'Algérie, ils s'associent aux Arabes et ils rentrent en Espagne. Ils font la conquête de l'Espagne. Et entre 750 et 1200, l'Espagne va être entièrement musulmane. Vont y habiter des Berbères qui parlent le kabyle, ceux d'Afrique du Nord, des Arabes qui parlent l'arabe, des Juifs qui habitaient par là et des chrétiens. Tout ce monde-là va parler arabe, la langue ce sera l'arabe. Et chacun vivra dans ses communautés. Les juifs dans les villes, les villages juifs, les berbères. Chaque communauté vivra avec sa religion.
En Espagne.
En Espagne. Mais tous parleront principalement l'arabe. Même les chrétiens. On les appelle les mozarabes. Eh bien, les chrétiens du sud de l'Espagne, ils parlent arabe. Et ils vivent ensemble. Ils coexistent. C'est-à-dire que chacun à sa culture et sa religion, et entre eux, ils débattent, mais ils ne se battent pas. Et donc, tu vas avoir ce pays qui va s'épanouir. Au niveau de l'agriculture, ça va être le grenier de toute l'Espagne. Et il y aura tous ces débats entre les différentes cultures. Ils vont construire des grandes villes superbes, magnifiques, avec une architecture extraordinaire. Et puis des universités, des centres de recherche, des centres de traduction. Ils vont tous discuter entre juifs, musulmans et chrétiens. Ils vont débattre. Et de ces débats vont naître énormément de livres de philosophie, de mathématiques, de médecine. Ça va être une très, très grande époque. On appelle ça Al-Andalus. Et peu à peu, ils vont se dresser les uns contre les autres sur des désaccords religieux. Et on va arriver à des guerres civiles. Et peu à peu, les chrétiens du Nord, les Espagnols du Nord, ils vont en profiter.
Ils vont en profiter quoi, mamie ?
Ils vont
gagner la guerre ?
Eh bien, ils vont recommencer peu à peu à reconquérir toute l'Espagne. Tu as des guerres civiles entre deux villes-là, hop, ils arrivent, ils font des alliances, et peu à peu, ils reconquièrent toutes les grandes villes. Et la dernière qui résiste, c'est Grenade, le califat de Grenade. Et tu sais jusqu'à quand elle résiste ?
Non, non, non.
1492. Et le jour où Grenade tombe, le roi d'Espagne, il dit à Colomb, « D'accord, ne m'embête plus, je te donne l'argent, tu peux partir. »
Il a profité du désordre pour gagner alors.
Il a profité du désordre pour gagner, il a reconquis toute l'Espagne. Et quand nos marins y rentrent du voyage de Colomb, l'Espagne est espagnole, c'est-à-dire qu'elle est sous domination chrétienne. Tu as ces paysans qui parlent arabe, avec ces communautés musulmanes, et le roi est catholique, et l'État est devenu catholique. Alors quoi, à ton avis ?
Oui, mamie, les musulmans sont obligés de suivre les catholiques parce que c'est la religion du roi. C'est le roi qui commande, c'est le peuple du roi qui commande. Alors, les musulmans sont obligés de se rabaisser.
Oh, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que le roi va imposer à tous les gens qui vivent en Espagne de devenir chrétiens, c'est-à-dire catholiques, d'accord ?
C'est ça.
Déjà en 1492, cette même année, ils avaient expulsé tous les juifs d'Espagne parce qu'ils les obligeaient à devenir catholiques et ils prétendaient qu'ils ne devenaient pas des vrais catholiques. Et là, c'est une population beaucoup plus importante. C'est tous les paysans, c'est tous les artisans. En Andalousie, c'est 40% de la population qui est musulmane. C'est beaucoup, 40%. Donc, ils vont être obligés de se faire baptiser sous peine de mort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font, à ton avis ?
Ils sont obligés, s'ils ne veulent pas une acaparti.
Eh oui, ils habitent là depuis, tu calcules, 700, c'est-à-dire qu'ils sont complètement espagnols. Ça fait 5, 6 siècles qu'ils habitent là. C'est leur pays. Ils vont partir où ? Ils ne veulent pas partir, ils veulent rester. Alors ils se soumettent. Ils se baptisent. Mais tu sais, il y a plein de petits villages. Et quand tu te soumets, c'est-à-dire à l'extérieur, tu vas à l'église, tu deviens catholique, mais à l'intérieur, tu continues à pratiquer ta religion. Et tu as tous les rites culturels qui vont avec. Tu sais, les musulmans, ce qui est très important, c'est de se purifier avant la prière et surtout dans les périodes importantes comme l'Aïd, le Ramadan. Donc, c'est pour ça qu'il y a les hammams, les bains morts. Ils continuent à aller au bain, ils refusent de manger le porc, etc. Donc, le roi dit, ils ne sont pas des vrais convertis.
Ça veut dire qu'il a constaté qu'il n'était pas sérieux dans la religion chrétienne, catholique.
Mais imagine, tu as la moitié du pays qui est musulmane, ils ne peuvent pas tout surveiller, ils ne peuvent pas mettre tout le monde en prison. Et c'est quand même tous les paysans dont ils ont besoin, tous les gens qui font les travaux dont ils ont besoin. Donc ils se sentent impuissants. Et en 1610, si je ne me trompe pas, le roi de l'époque, il s'appelle Philippe III. Il dit, ça suffit, on va les expulser tous. Alors, tu imagines expulser presque la moitié de la population de l'Andalousie. Imagine, en France, on décide d'expulser tous les immigrés. Qu'est-ce que ça va provoquer, à ton avis?
Ça va provoquer une chute.
Oui, une chute de l'économie grave. Tout d'un coup, toute la main-d'œuvre s'en va.
C'est ça, mamie.
Donc, tu as des Espagnols qui ne sont pas d'accord avec les décisions du roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as peur, quand tu n'es pas sûr de toi? Tu accélères. Et le roi va décider de l'expulsion. Il a tout pouvoir. Et il va l'accélérer. Et on va expulser, écoute-moi bien, 500 000 personnes qui habitaient en Andalousie, des Espagnols musulmans. 500 000.
Tizos. On les appelait comment, mamie?
On les appelait des morts. Et puis ensuite, quand ils veulent devenir chrétiens, on ne dira plus moros, on va dire moriscos. En français, ça fait les morisques. Donc, c'est les gens qui habitent là depuis des dizaines, des centaines d'années, qui étaient musulmans, qui sont convertis, qui sont devenus maintenant chrétiens, mais dont les Espagnols doutent, d'accord, qu'ils soient vraiment chrétiens. Donc ça, c'est les morisques.
Las moriscas y las moriscas mujeres torciendo las blancas manos alzando al cielo los ojos a voces dicen llorando ay Sevilla patria mía Iglesia de San Pablo, San Andrés, Santa Marina, San Julián y San Marcos, otra ciudad. Sitios donde tenían sus tratos.
Donc, tu imagines comment faire? Il faut armer des bateaux, il faut obliger les gens à partir, il faut que l'armée encercle les villages, les amène au bord vers les ports. En 4 ans, ils réussissent à en expulser 500 000. Ça, c'est une expulsion, une sacrée migration.
Vraiment, mamie, vraiment.
Alors, d'après les historiens, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis et très vite, ils sont revenus. Il y en a qui se sont cachés. Il y a des Espagnols qui en ont aidé à se cacher.
Bon, mais il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des morts?
Écoute, on n'a pas les statistiques à l'époque, mais il semblerait qu'il y a eu beaucoup de morts. Et là, comme le roi, il n'est quand même pas sûr de lui, qu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'économiquement, ça a été une catastrophe. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'artisans. Et même, il y avait des morisques très riches, ils sont partis avec leur richesse. Donc, il veut prouver qu'il a raison. Il veut faire une lutte politique, idéologique. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, il n'y a rien. La seule chose qu'il a, c'est la peinture. Il va faire des tableaux pour montrer qu'il a eu raison. Mais ces tableaux, ils vont nous montrer l'expulsion des morisques. Je vais te les montrer, tu veux les voir?
Oui, mamie, je veux les voir.
Solange, c'est de l'idéologie. Ces tableaux, ils ne racontent pas la vérité.
Ah bon?
Mais attends, les peintres, le roi leur dit, vous peignez l'expulsion des Maurices. Vous parlez des révoltes, parce que c'est nous qui avons gagné sur les révoltes. Mais vous ne parlez pas des morts de faim. Vous ne parlez pas des cris de désespoir. Vous montrez que les Maurices sont contents de partir.
Mon Dieu! Donc, il a montré son innocence. Alors, il a montré qu'il était innocent. Il n'était pas fautif dans tout.
Oui, c'est ce qu'il veut faire avec ses tableaux. D'accord? Bon, les tableaux, on les a retrouvés. Donc, j'en ai des photos. Et je vais t'en montrer un ou deux pour que tu vois la scène.
Oui,
d'accord?
Mamie. Wow.
Alors, regarde. Ce tableau-là, ils sont au port de Valence. Et... tu vois, au premier plan, il y a des personnages. Tu vois ça, c'est les Espagnols. Tu vois comment ils sont habillés à l'époque. Ils ont, les femmes, elles ont des robes longues. Ils ont tous des chapeaux noirs sur la tête. Tu vois bien. Derrière, tu vois les charrettes. Et là, c'est les Morisques qui sont là. Alors, ils ont mis les Morisques un peu derrière. Tu vois cette femme, cette espèce de truc rond sur lequel elle est assise, c'est leur ballot. Ils ont fait des ballots qui sont ronds comme des roues de charrette dans lesquelles il y a tout ce qu'ils possèdent. Comme ça, ils peuvent les rouler. Et c'est là-dessus qu'elle est assise, sur un ballot. C'est là ça qu'ils vont mettre dans les bateaux. Et tu vois qu'elle est habillée, elle a le voile musulman. Sinon, elle est habillée comme les Espagnols. Je vais te montrer un autre tableau où tu vois mieux comment ils sont habillés.
Excuse-moi, mamie, les ballots là, c'est les... qu'est-ce qu'il y a dedans?
Les habits, tout ce qu'ils possèdent pour faire l'agriculture. Si tu veux, il y a les semences, il y a les outils, il y a les tapis surtout. Il y a beaucoup de tapis, il y a les habits. Mais dedans, c'est là aussi, c'est des paysans. Ils vont partir avec leurs outils de paysans et les plantes, les semences, les graines. Le roi, il a demandé aux peintres de montrer comme les Morisques sont contents de partir. Il les fait danser. C'est les mêmes danses qu'on danse aujourd'hui à Séville, tu vois. Alors, toujours au premier rang, t'as les Espagnols. Il faut toujours qu'ils les peignent devant. Derrière, tu vois les Morisques, elles sont habillées pareil, mais plus pauvres. Donc, on dirait des Espagnols. La seule chose sur le tableau qui les distingue, c'est le voile. D'accord. Alors pourquoi c'est important? Parce que maintenant je vais te montrer le troisième tableau et c'est le seul tableau qui va montrer l'arrivée des Morisques en Afrique. Donc tu as vu sur les tableaux qu'il y a des bateaux qui sont prêts à partir avec les premiers Morisques qu'on embarque. 1600 d'un seul coup à Valence. D'accord. Et ceux-là, si tu veux, c'est tout à fait, c'est les premiers à être expulsés. Où est-ce qu'on les emmène? Parce que de l'autre côté, sur la côte d'Afrique du Nord, personne n'est au courant. Ce qu'ils ont fait pour le premier débarquement, ils ont choisi Oran. Et tu vois là, tu vois, il y a écrit Oran, tu vois la forteresse et tu vois en bas les grands bateaux pleins de gens.
Oui, je vois.
Et puis tu vois aussi plus loin des petites barques. Depuis les grands bateaux, ils débarquent sur une plage. Et sur cette plage, tu vois qu'il y a des tentes.
Oui, des tentes, je vois, mon.
Tu vois les tentes. Tu vois derrière, il y a les moutons. Tu vois les gens en train de débarquer, les familles en train de s'installer, d'accord? Et puis si tu regardes bien, rapproche-toi bien, regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Qui c'est ceux-là? Est-ce que tu vois qu'ils sont sabres au poing? Est-ce que tu vois qu'ils sont en train de les assassiner? Tu vois le sabre là? Tu vois qu'il est en train de tuer cet homme-là?
Oui, oui, oui.
Tu vois comment ils sont habillés? Ils ont des burnous blancs?
Oui, 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 oui.
Alors c'est quoi à ton avis cette affaire-là? Les gens du coin qui habitent là, ils ont dit, eh ben les Espagnols nous attaquent, les Espagnols débarquent et ils sont venus empêcher le débarquement. Ils ne savent pas que c'est des Morisques. Pour eux, c'est des chrétiens. C'est des Espagnols chrétiens qui sont en train d'envahir l'Afrique du Nord. Et donc, ils arrivent à cheval, sabre au poing, pour les tuer tous.
Ok, môme, je vois, ils se tuent entre eux sans savoir que C'est eux parce qu'ils sont différents de leurs frères, parce qu'ils ont pris la culture espagnole. Ils ne se ressemblent plus. Donc les Algériens, ils voient leurs frères, mais ils ne croient pas que c'est leurs frères, ils croient que ce sont les Espagnols. Et puis, ils tombent subitement sur eux pour les chasser, que rentrez chez vous, ne venez pas mettre le désordre ici. Je crois que c'est ça.
C'est exactement ça, Solange. Les Morisques, est-ce qu'ils sont chrétiens ou musulmans ? Pour les populations où ils débarquent, là, c'est des chrétiens. Ils sont habillés comme les Espagnols. Et puis, au niveau de la peau, ils sont tous semblables. Tu sais, les Espagnols, les Arabes et tout. Donc, eux, ils sont sûrs que c'est les Espagnols catholiques qui viennent envahir leur pays. Et ils les massacrent. Ils les massacrent. Et il faut 3 jours aux autorités d'Alger pour arrêter le massacre parce que les Espagnols n'avaient pas prévenu les autorités d'Afrique du Nord. C'est une histoire terrible.
Mais les 3 jours, là, il y a beaucoup qui sont morts. Parce que 3 jours, c'était énorme pour baisser les tensions.
Écoute, Solange, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont tous morts. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ensuite, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Et ils ne sont peut-être pas tous morts, mais ça, je ne peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que c'était un massacre. Et que pour les populations berbères d'Oran, elles sont restées avec l'idée que c'était une invasion de chrétiens d'Espagne. Ils n'ont pas abandonné cette idée. Ça a été pour eux un traumatisme, ils ont eu peur. Et pour eux, c'est des chrétiens. Ceux qui ont survécu et qui sont installés comme paysans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti de leur ballot rond leurs semences, mais ils avaient peut-être des terres pauvres. En tout cas, il y a une chose qui a marché, c'est la raquette de figues de Barbarie. Celle-là, ils l'ont plantée, ils ont mis un peu d'eau et elle a poussé.
Ah, momie, je comprends maintenant. Je comprends maintenant là où le nom de le fruit des barbaries s'appelle le fruit des chrétiens. C'est parce qu'ils sont quittés de l'Espagne, ils sont venus. Donc, les frères ont cru que c'était des chrétiens alors que c'était leurs propres frères musulmans. Puisqu'ils se sont déguisés, bon, je peux dire qu'ils sont devenus, comme je peux prendre l'exemple sur moi, peut-être si je m'en vais au Cameroun maintenant, ils vont m'appeler blanche, alors que je ne suis pas blanche, parce que même ma peau a changé, même ma façon de parler a changé. Oui, parce que quand je suis arrivée, si je ne m'exprimais pas comme ça, c'est quand je suis arrivée à la droguerie, à la cantine, que j'ai appris un peu à m'exprimer, ils vont dire, mais ça, celle-là, c'est une blanche. Donc, je comprends. Pourquoi ils ont commencé à massacrer leurs propres frères sans savoir que c'est leurs propres, en croyant que c'est les blancs alors que ce sont leurs propres frères. Et ils sont arrivés, se sont installés, ils ont planté le fruit et eux, ils ont appelé le fruit des chrétiens.
Tu as tout compris. Il y a juste une petite chose que je vais te dire.
Yes, mom.
Eux, les Maurices, quand ils le plantent, entre eux, ils l'appellent Hindi. Mais s'ils ne savent pas que ça s'appelle Hindi, ça veut dire qu'ils ne vont pas leur parler. Ça va rester une communauté et un peu ennemie. D'accord ? Et ça, c'est triste. Maintenant, c'est tellement triste qu'on va prendre cette affaire par un autre bout, mais la prochaine fois. D'accord. Et je vais te montrer comment il y a des Morisques qui sont arrivés, qui ont décidé de partir. Et ce qu'ils ont construit. Et ça, c'est une histoire aussi belle que celle-ci, elle était triste.
Wow. C'est vraiment triste. À la dernière minute, ça donne les larmes aux yeux. À la dernière, ça donne les larmes aux yeux. Parce que comment un frère peut confondre son propre frère parce que ce n'est plus la même, parce que... Et tu pars dans un pays, tu te construis, tu fais tout, ta famille là-bas, demain un autre, on te dit non, ce n'est pas ça. Mais quand tu rentres encore chez vous, on te dit non, on ne veut pas te voir ici parce que tu n'es pas maman mia, mon Dieu, Seigneur Jésus. Disons, je comprends, mamie, merci. Bien sûr, ça m'a donné l'âme aux yeux, mais ça m'a plu parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'avais dit, un jour, moi aussi, pas arrivé dans mon pays et on me dit, tu n'as plus la place ici. On ne me compte même pas, parce que puisque tu n'as plus la place ici, et me confondre, c'est 2 choses différentes.
Rajaïn ya hawa, Rajaïn. Ya Zahri til Masakin, Rajaïn ya hawa. دار الهوى على نار الهوى رجعي
C'était la figue de Babari dans tous ses états. Épisode 2.
Une chronique de Radio Café Causé.
Entièrement fait maison.
Proposé par Solange, Sybille
et Sarah.
Avec le soutien technique de Fabrice.
Musique.
Balalaké Sissoko et Vincent Sigal.
Musique traditionnelle arabo-andalous.
Ney Barghouti. À retrouver en podcast sur le site www.enchantier.org. Radio Café Causé, une radio participative à la Belle de Mai. Si vous souhaitez y contribuer,
contactez-nous par mail
à cafécausé@enchantier.org
ou par téléphone
au 07 49 57 13 67
بنكون راجعين على نار